le niveau de pauvreté, si on prend comme seul indicateur l'indicateur des ressources, on voit que voilà que la pauvreté continue de s'accroître. On voit aussi, et c'est souvent le corollaire, que les inégalités continuent de se creuser. Et finalement, des territoires les plus pauvres monétairement, en ayant un seul indicateur pour définir cette carte, qui est un seuil de ressources. En même temps, si on veut que des politiques de développement local, des politiques de rénovation urbaine et de l'efficacité, il est à la fois important de prendre en compte ce paramètre financier, mais de prendre aussi en compte d'autres paramètres comme l'isolement. On sait que l'exclusion, c'est l'addition d'un manque de moyens matériels avec un manque de soutien et de relations. Et donc c'est important de cibler plus précisément l'action publique sur des territoires dans lesquels la pauvreté monétaire est importante. Mais il faut que les moyens de mise en œuvre restaurent à la fois du développement économique, mais aussi du lien social. Sinon, on ne fera que déplacer les difficultés des habitants de ces territoires.
Donc selon vous, le fait de prendre seulement en compte le revenu donc des habitants n'est pas suffisant pour être représentatif de la pauvreté aujourd'hui en France.
C'est un indicateur pertinent pour définir des priorités territoriales. Par contre, pour imaginer à partir des budgets mobilisables, une fois qu'on est retenu dans ces territoires, des projets qui luttent réellement contre l'exclusion, il faut à ce moment-là, je dirais dans une seconde étape, prendre en compte d'autres paramètres, l'accessibilité aux services, les possibilités pour les personnes d'accéder à leurs droits, la présence associative existante ou à développer sur le territoire, la présence d'acteurs économiques. Il ne suffit pas d'avoir un indicateur pour identifier les zones les plus pauvres au plan monétaire, pour avoir une stratégie qui permette de changer la situation. Pour changer la situation, il faut prendre en compte une observation bien plus large, et notamment une observation assez fine de ce que constituent les liens sociaux.
Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, peut-être ?
Si j'avais quelque chose à ajouter, moi je suis persuadé, et on l'est au Secours Caduc, qu'on ne fera pas changer la donne de ces territoires fragilisés sans prendre en compte l'ensemble des acteurs de ces territoires, à commencer par les personnes qui sont le plus en difficulté. Ce qui nous surprend depuis plusieurs années, depuis qu'on a commencé à animer des groupes de personnes en difficulté dans des quartiers, dans des zones défavorisées, qu'elles soient dans l'espace urbain, qu'elles soient dans l'espace rural. Ce qui nous a toujours surpris, c'est la pertinence des propositions que font les personnes en difficulté et finalement le côté très raisonnable de leur proposition. Les gens ne demandent pas la lune, les gens demandent des aménagements concrets qui changent les choses sur le fond. Je crois qu'on aurait tout à gagner en termes de propositions politiques si on prenait vraiment en compte les attentes, les aspirations, les besoins, les envies des personnes. Pas uniquement dans une approche, je dirais, de type organisons la survie, mais dans une approche de organisons la ville, la cité, le vivre ensemble de demain. Voilà, faut pas interroger les gens sur leurs besoins primaires, faut oser les interroger sur la manière dont ils voient la vie en société demain. Et les propositions que les personnes les plus en difficulté font sont très généralement des propositions très intéressantes.
Et justement, peut-être avez-vous des exemples de ces propositions ?
On voit par exemple tout ce qui peut se jouer dans certains quartiers autour d'épiceries sociales, à condition qu'elles ne soient pas des lieux de distribution, mais qu'elles restent des lieux à taille humaine, quelques dizaines de personnes ou de familles, à condition que ce qui est visé n'est pas simplement de fournir de l'alimentation, mais qui est de permettre à des personnes d'échanger entre elles sur leurs conditions de vie, sur ce qui est riche dans leur vie, mais aussi sur les difficultés dans leur vie, et qu'on les invite par des petits projets à leur taille, mais on commence par un petit projet, puis on va sur un projet un peu plus grand, on commence sur un projet plutôt individuel, puis on essaie d'aller vers un projet collectif. Voilà, on voit des réseaux de solidarité qui se créent, on voit la compétence des acteurs qui augmente, on voit des gens en qui on croyait peu, qui révèlent leur talent. Voilà, c'est des choses à petite échelle, mais qui peuvent faire système. Beaucoup de choses aussi autour de la réutilisation, je dirais, de ce qu'on appelait les mètres carrés sociaux dans les habitats collectifs, autour de d'activité conviviale. Enfin, la fête du voisin, ça peut paraître un peu anodin quand on est plutôt inséré, quand on va bien. Ça peut être un vrai défi en termes de réalisation, d'organisation pour des personnes dans des quartiers où on est dans des logiques de survie et donc dans des logiques de rivalité. Tout ce qui recrée de la rencontre, tout ce qui recrée de la solidarité, tout ce qui permet d'entrer en dialogue et de comprendre la culture de l'autre, tout ça, ça peut paraître des gouttes d'eau, mais c'est ce genre d'action qui, sur le fond, finit par changer la donne et qui remet du lien social sans lequel une reprise au sens plus économique n'aurait pas lieu. Il faut vraiment conjuguer le fait de donner des moyens au territoire de se développer, mais de permettre aussi aux acteurs d'être force de proposition, de sortir d'un certain renoncement, d'un certain marasme. Et ça, on ne le fait pas seul, on le fait en échangeant avec d'autres. Et les gens les plus en difficulté sont assez surprenants sur leur capacité à proposer des choses ensemble, à condition qu'on les rassemble et qu'on leur permette d'exprimer une parole.